Quel ordinateur ?
Je vais peut-être le prendre le mien, en fait.
D'accord.
Si ça fonctionne. Oui. Bien. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité à parler dans ce séminaire. C'est toujours difficile de parler après par le Yoriot. Donc moi je serai certainement un peu plus concis et plus pragmatique dans ma présentation. En préparant cette séance, je me suis rendu compte aussi que j'étais le seul non-italien, je pense, de la table. Ça m'a un temps troublé, mais heureusement, mon auteur, Émile Zola, était d'origine italienne, finalement, donc l'équilibre est restauré.
Je suis corse.
Voilà.
C'est pour ça qu'il
n'y
a plus l'intégrité.
Exactement. Voilà, donc, ceci mis à part, effectivement, je vais vous abreuver un peu, effectivement, de numérique et parler, finalement, de l'expérience d'un littéraire face au numérique. Puisque c'est bien le cas, votre cas à vous finalement, comment des littéraires sont confrontés à un moment donné à faire une édition numérique d'archives d'un écrivain, de correspondances d'un écrivain, confrontés au numérique alors que nous ne sommes pas spécialistes du numérique à l'origine, même si cet outil nous intéresse de par les moyens qu'il nous offre d'édition, mais aussi de par la réflexion que l'on peut mener autour de cette notion, cette idée d'humanité numérique. Donc je vais vous présenter finalement le cas d'école de Zola face au numérique. Tout à l'heure, en introduction, vous avez dit, ces projets numériques sont des modèles. L'expérience nous montre que non, c'est que ce ne sont pas des modèles, ce sont des propositions d'outils que nous développons à un moment donné dans le cadre d'une histoire, l'histoire d'une équipe de recherche, l'histoire de recherche autour d'un auteur tel que Nietzsche, Baudelaire ou Roger Numérique, l'édition qu'on a pu voir comme des modèles à un moment donné, et bien pour X raisons, quelques mois, quelques années après, sont devenus dépassés, obsolètes. Voilà. Donc finalement, le numérique est un instrument qui s'use très vite. Et c'est un peu cette histoire-là que je vais vous montrer autour de Zola. En faisant quelques allers-retours effectivement entre mon diaporama et puis des pages web. Donc si je fais un peu d'archéologie du numérique, puisqu'on est un laboratoire de génétique, il faut faire aussi de la genèse des sites internet, donc remonter aux origines, les premiers sites internet autour de Zola apparaissent vers la fin des années 2000. Donc avec un premier site américain qui existe toujours, qui avait pour titre « Les petits onches », reprenant cette phrase de Paul Alexis à propos d'Émile Zola, même dans la première enfance, il avait eu presque un défaut de langue, le « e » et l'S principalement, qu'il prononçait « t », petit on pour saucisson. Et ce premier site finalement d'un universitaire américain avait comme ambition d'être un portail vers des ressources en ligne autour de Zola. C'était finalement donc une bibliothèque de sites qui permettait d'aller chercher des ressources, notamment des premières éditions numériques des romans de Zola. Dans le même temps, les cahiers naturalistes, la revue historique des études zoliennes, fondée en 1955, est bien passée, elle, également au numérique, en créant un site de présentation de la revue, avec notamment des index, index thématiques et index par nom d'auteur des milliers d'articles parus dans cette revue. Donc des sites on va dire statique en HTML, simple mais finalement utile. D'autres initiatives ont suivi, la mienne finalement, voilà, qui s'appelait Eusola. Je l'avais imaginé en 2001 comme étant un Isola, c'est à la fois le E de Emin, mais aussi du web finalement, dans l'idée effectivement de pouvoir proposer des ressources numérisées en ligne. Donc c'était vraiment cette intuition qu'il y avait des archives qui étaient le plus souvent dans des collections privées et non pas dans les grandes institutions publiques, et que ces archives, il fallait les montrer, hein, les donner à voir. Je n'avais, à cette époque-là, tout jeune doctorant que j'étais, absolument pas réfléchi aux questions de droit. Voilà, c'était dans cette idée de la liberté du web, de pouvoir publier, et effectivement, il y avait un total manque de réflexion, hein, par rapport à l'engagement que c'était que de publier un site d'archives d'un auteur tel que Zola. C'était aussi l'idée de pouvoir publier de la bibliographie, d'abord la mienne, naissante, des articles publiés autour de Zola et de la musique, hein, mais on est là aussi dans cette idée, hein, qu'il faut pouvoir partager ces publications, pouvoir les diffuser le plus largement possible grâce au numérique, et aussi pouvoir associer cette bibliographie à des éléments numériques, donc pouvoir faire des liens hypertextuels vers des archives numériques. Donc là, vous voyez, ce sont des projets assez individuels, hein, qui viennent de personnes individuelles, chercheurs, étudiants, qui vont publier un site. Le premier projet collaboratif d'équipe, de l'équipe Zola de l'ITEM, qui était à l'époque dirigé par Jean-Pierre Leduc Adine, ça a été une édition sur Gallica du roman Le Rêve, donc de Zola, dans cette ambition d'avoir sur un lieu unique toute l'archive, manuscrits, édition, traduction, adaptation d'un roman, Le Rêve de Zola, qui n'était pas d'ailleurs le roman le plus connu de Zola, mais qui avait comme mérite d'avoir de nombreuses éditions illustrées, traductions, et aussi adaptations au cinéma ou à l'opéra. Donc c'était effectivement un projet porté par l'équipe Zola de l'ITEM avec la BNF et Gallica. Et en préparant cette intervention aujourd'hui, je suis allé revoir ce que nous avions fait en 2000. Donc on était à peu près une trentaine à participer à ce projet. J'imagine qu'Eleonore était dans le travail aussi par rapport à ce dossier. Non ? Et effectivement, quand on va sur Gallica et qu'on va voir ce dossier du rêve, on se rend compte que bien beaucoup de liens sont cassés. Que tous les liens vers les manuscrits de ces préparatoires de Zola qui sont sur Gallica, et bien tous ces liens sont cassés. On n'a pas imaginé à l'époque de liens pérennes parce que les identifiants de chaque folio des manuscrits de Zola, et bien ces identifiants ont été modifiés par la BNF entre deux, puisqu'on est passé à des identifiants ARC, hein, ARK. Et donc voilà, si actuellement ce dossier du rêve sur Gallica, et bien il est obsolète, hein, parce qu'on n'a pas anticipé effectivement la migration vers des URL qui n'étaient pas pérennes à cette époque-là. Donc on voit aussi effectivement que les projets numériques, ce sont des projets qui, à un moment donné, risquent effectivement d'être obsolètes, et qu'il faut anticiper finalement cette obsolescence par des bonnes pratiques d'édition numérique, comme l'a dit Paolo tout à l'heure, hein, grâce aux URL pérennes que l'on peut en plus bien sûr citer dans nos publications. Je poursuis donc mon incursion dans cette histoire de Zola et du numérique pour en arriver au projet ANR Archives, pour Archives Zoliennes, qui a été mené par l'équipe Zola, dirigée à l'époque donc par Alain Pagès, entre 2012 et 2016. Donc il était un projet financé par l'ANR, en collaboration avec l'ITEM et avec la Bibliothèque nationale de France. L'idée étant d'avoir un portail web unique qui permette de réunir, si possible, l'ensemble des archives d'Émile Zola. Imaginez ce que ça peut représenter, c'est quelque chose d'incommensurable. C'était aussi l'idée de guider le lecteur, l'utilisateur du numérique, dans la multitude des archives zoliennes qui sont en ligne, et notamment les textes de romans de Zola, qui ont beaucoup des multitudes d'éditions en ligne, mais qui souvent n'ont pas été relues, n'ont pas été corrigées, n'ont pas été comparées par rapport aux éditions originales. Et donc la plupart de ces éditions, eh bien, elles sont fautives. Donc l'idée, c'était de pouvoir donner à nos lecteurs une édition au moins des 20 romans d'Héro Macquart, d'après l'édition originale, parue chez Charpentier, du vivant de Zola. Sur le plan un peu technique, puisqu'on était dans cette idée collaborative, de pouvoir être, nous, membres de l'équipe Zola, pouvoir intervenir dans le contenu du site, nous avons fait le choix d'un CMS qui s'appelle Drupal, et qui s'est vite transformé en usine à gaz, qui ne nous permettait pas justement de pouvoir travailler de manière collaborative. Il fallait un informaticien tel que le nôtre, Jamy Pétrazi, pour pouvoir faire fonctionner le site et l'enrichir. On n'avait pas la possibilité, nous, finalement, d'avoir la main sur les contenus du site, ce qui n'était pas la philosophie d'origine du projet. Donc on est passé à un WordPress. Donc là, vous avez ici la version numéro 3 du site Archives. Et là, le WordPress s'avère beaucoup plus maniable en termes d'édition de contenu et aussi en termes de gestion des différents menus du site Internet. Donc, je vais rapidement vous présenter le site Archives tel qu'il est fait aujourd'hui. Je vais le mettre ici. Voilà, donc comme vous voyez avec le menu du haut, l'idée c'était de pouvoir réunir à la fois les œuvres de Zola, les romans, les textes critiques, les textes consacrés à la critique artistique, une iconothèque, donc réunir l'image autour de Zola, notamment les caricatures, les photographies, les illustrations, les couvertures des éditions différentes des œuvres de Zola en France et à l'étranger, et bien sûr un accès aux manuscrits de Zola. Par rapport effectivement à Nature Source, on n'est pas dans une édition génétique, on est vraiment dans le cadre d'un portail d'accès aux archives déjà numérisées, déjà mises en ligne. Au tout début, finalement, notre ambition, c'était de dire on va tout mettre sur Archives, hein, tous nos fichiers. Mais finalement, on s'est dit, mais pourquoi les mettre sur notre site, puisqu'ils sont déjà disponibles ailleurs, et bien disponibles ailleurs, notamment sur Gallica. Mais simplement, on se rend compte que sur Gallica, les notices sont assez sommaires. Donc, comment entrer dans la microstructure des dossiers préparatoires de Zola, alors que le sommaire de ces 400, 500, 600 folios mis en ligne sur Gallica ne sont pas suffisamment précis. Donc l'idée, ça a été simplement de pouvoir proposer, je prends ici la fortune des Rougons, eh bien, le détail, par exemple, du dossier préparatoire de la fortune des Rougons. Et puis si je m'intéresse à l'ébauche du roman, eh bien, je sais que ce sont les folios 37 à 52, et mon lien me renvoie directement vers la ressource sur Gallica. Voilà. Donc vraiment l'idée ici, c'était de pouvoir en définitive faciliter l'accès aux ressources déjà mises en ligne. Par rapport aux œuvres de Zola, l'idée était aussi de pouvoir proposer une recherche textuelle, bien évidemment, dans l'ensemble des œuvres déjà mises en ligne, Héro Macquart, les quatre évangiles, etc., etc. Actuellement, je ne pourrais pas vous montrer cette partie, notamment de recherche actuelle, qui est finalement très pratique, parce que nous avons été confrontés, et ça c'est aussi la vie des projets numériques, à des piratages, à des attaques contre le site, dont on n'arrive pas à comprendre les raisons. Est-ce que Zola est une proie, une cible, un écrivain sensible, je ne sais pas. Mais effectivement, nous subissons des attaques qui nous obligent effectivement à repenser aussi les niveaux de sécurité au niveau de notre site et des données que nous mettons sur notre site. Pensant naïvement que des données purement littéraires n'intéresseraient finalement personne, eh bien si, finalement, effectivement ça intéresse, je ne sais pas pour quelle raison, mais on a là effectivement un gros travail hein, en termes de sécurisation de nos données. Voilà, donc je vous ai rapidement montré effectivement ce site Archiz, donc qui a été développé sur une période de 4 ans, avec cette difficulté aussi effectivement que la limite de des financements hein, font que ces projets numériques, eh bien, à un moment donné, soit ils s'arrêtent, soit ils continuent, mais sous d'autres formes, sous d'autres financements, d'autres moyens financiers et humains. Il y a effectivement cette difficulté hein, de pérenniser et de continuer à enrichir un portail numérique de ce type-là, alors que finalement nous sommes passés à d'autres projets numériques depuis lors. Donc cette question-là, elle est aussi essentielle, je pense, à prendre en compte quand on débute un projet d'édition numérique d'archives. En même temps que le projet Archiz, nous avons eu l'ambition de nous intéresser à un corpus particulier que sont les journaux de l'AFA Dreyfus, collectés par Henri Mitran. Henri Mitran, le grand biographe d'Émile Zola, qui possède une grande collection de journaux, notamment consacrés à l'AFA Dreyfus. Et l'idée a été de pouvoir numériser cette collection, ce qui a été fait à la MSH de Poitiers, et de pouvoir la mettre en ligne, non pas sur Archiz, mais là sur une autre plateforme qui était en émergence à l'ITEM à l'époque, hein, c'était les tout premiers projets, sur la plateforme d'édition Iman, développée par Richard Walter, hein, Iman pour édition de manuscrits et d'archives numériques. Ici, l'ambition, c'était aussi de pouvoir redonner, grâce au numérique, avoir des documents finalement papier, à voir comment un collectionneur collecte ces documents, comment il les range, comment il les trie, comment il les associe les uns avec les autres, hein, notamment par cette pratique qui était très courante à l'époque, hein, de pouvoir accrocher un article de presse avec un autre par une petite épingle hein, qui est toute rouillée maintenant dans le papier. Et donc l'idée, ça a été en numérisant de pouvoir conserver toutes ces traces du collectionneur, hein, pas simplement donner à montrer des journaux somme toute connus ou déjà disponibles par ailleurs, mais de pouvoir montrer quelle était la cohérence d'une collection d'un chercheur tel que Henri Mitran. Et donc cette première incursion sur la plateforme Iman a été finalement assez concluante et nous a encouragé à poursuivre cette piste d'édition numérique à la fois sur un WordPress et à la fois sur la plateforme Iman. Et c'est un peu voilà, la schizophrénie actuelle de l'équipe Zola d'être sur ces deux plateformes, deux modes d'édition différents qui ont leurs avantages et leurs inconvénients que je vais vous montrer maintenant. Donc suite au projet Archiz, nous avons lancé un autre projet. Alors c'est toujours la course aux acronymes, hein, et pas toujours heureux, il faut les trouver, se poser la tête. Et ici nous sommes tombés sur le projet CORES, pour correspondance électronique d'Émile Zola. Donc nulle référence politique ou géographique. Ce projet CORES, effectivement, vise à l'édition numérique de la correspondance générale de Zola. Donc je vais vous en parler aujourd'hui, puisque effectivement, vous êtes, vous, pour Baudelaire, dans cette même réflexion. L'idée est que, effectivement, ces 4700 à 5000 lettres écrites par Zola, qui ont été éditées par l'équipe Zola depuis les années 70 jusqu'à 2010, en 11 volumes aux éditions du CNRS et des presses universitaires de Montréal. Donc nous sommes scientifiques extraordinaires. Nous sommes partis du constat que c'était des volumes qui étaient souvent devenus introuvables, hormis en bibliothèque, que beaucoup de collègues étrangers n'avaient pas accès à cette correspondance, et qu'à chaque fois qu'on les rencontrait dans des colloques, ils nous disaient « Mais quand allez-vous faire une édition numérique de la correspondance de Zola ?» Hein, donc il semblait qu'il y avait là en fait, une urgence hein, à faire cette édition. Et comme je vous disais en préambule, on ne part pas de rien, hein, on part effectivement d'une histoire, une histoire d'équipe, une histoire éditoriale, et qu'il n'y avait pas de sens à refaire une édition des 5000 lettres de Zola sans partir de ce qui existait déjà et qui avait été très bien fait. Hein, donc Notre méthodologie a été de reprendre ces 11 volumes, tout simplement de les massicoter, de les numériser, puis de les osériser, hein, de faire donc une reconnaissance de caractère qui était faite par une étudiante qui était en stage chez nous à l'époque, Chloé Menu. Et grâce donc à la TJR Humanum, on a pu très facilement osériser et avec une grande qualité en fait hein, dans l'OCR, ces 5000 lettres. Actuellement, nous en sommes à la phase de relecture de ces OCR. Il y a assez peu d'erreurs de transcription. La grande difficulté, c'est que l'OCR a mélangé les notes scientifiques. Ce qui fait qu'il faut en fait qu'on remette toutes les notes à la bonne place dans chaque lettre. Voilà, donc là, on a un gros travail par rapport à ça. On a déjà fait 3 volumes, on espère pouvoir accélérer, de manière à ce que d'ici un an, on ait pu mettre en ligne ces 5000 lettres. Nous avons fait le choix de conserver les notes d'origine, les notes scientifiques, puisqu'elles sont très fournies et de grande qualité, mais nous avons aussi voulu créer des nouvelles notes, avoir la possibilité pour l'équipe Zola aujourd'hui de créer des notes nouvelles qui vont venir compléter les notes d'origine, éventuellement les corriger s'il le faut. Donc on a ici deux régimes de notes scientifiques. Un obstacle aussi qu'on a rencontré dans cette édition, c'est que l'édition papier fait énormément de renvois d'une lettre à une autre. Par exemple, voir la lettre 160 du volume 4. Donc ici, cette note, elle est obsolète dans le numérique puisque nous n'avons pas conservé, les volumes tels qu'ils étaient. Hein, on est dans 5000 lettres qui sont en un seul endroit. Donc nous sommes obligés de traduire cette note par un renvoi vers l'URL unique de la lettre à laquelle il est fait référence. Bien sûr, cette édition numérique nous permet de pouvoir ajouter les lettres inédites qui ont été retrouvées depuis la dernière édition, enfin, le dernier volume, en 2010. Et comme il n'était pas possible d'avoir une plateforme ad hoc pour cette édition tout de suite, nous avons fait le choix, effectivement, de mettre ces lettres dans Iman, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je vous montre ici, effectivement, comment se présente une notice d'une lettre dans Iman. Donc, c'est un peu technique, hein, mais nous avons d'abord les champs de Blinkor, les 15 champs minimum à renseigner de manière à ce que nos projets numériques soient interopérables et moissonnables sans aucun problème. Donc, ce sont vraiment les champs de métadonnées descriptives, hein, de titre, de créateur, de sujet, les mots-clés, de description, source, éditeur, date, etc. etc. Notre méthodologie a été de partir des sommaires des 11 volumes. En numérisant ces sommaires, on a obtenu une ligne par lettre, hein, et chaque ligne a fait l'objet en fait d'une création automatique, hein, d'une notice dans Iman. Donc effectivement, en quelques clics, quelques imports, on a pu importer les 5000 notices dans lesquelles il faut maintenant injecter le contenu des lettres et les notes qui sont liées. Donc notre philosophie a été de se dire que Iman allait nous permettre de préparer nos données de manière propre, hein, que Iman était bien fait pour ça, mais que Iman n'était pas fait, en tout cas pas suffisamment ergonomique, pour accueillir une édition complète d'une correspondance d'écrivain. D'où notre idée de continuer à développer une plateforme en WordPress qui pourrait être liée avec Archives, puisqu'on est parti en fait du même modèle de départ, et aussi pour avoir un site, hein, qui a comme URL correspondance-zola.fr. Et là, je vous montre, je pense, si ça fonctionne. Bien sûr. Ah, voilà. C'est en avant-première, hein, je ne l'ai montré à personne pour l'instant. C'est la nouvelle plateforme d'édition de la correspondance de Zola. C'est encore tout nouveau, tout frais. Il y a encore plein de détails, bien sûr, à corriger, hein, voilà. Mais vous voyez, on est parti du même thème que Archives, et on s'est inspiré d'un site de correspondance très bien fait, qui est celui des lettres à Van Gogh, de Van Gogh, pardon, et à Van Gogh d'ailleurs, qui est un site donc néerlandais, qui pour nous était vraiment le modèle le plus séduisant, parce qu'il permettait effectivement d'avoir une page ici avec, avec plusieurs colonnes que l'on peut déplacer ou que l'on peut enlever ou ajouter. Ça veut dire que, effectivement, si on a un grand écran, on peut avoir l'image de la lettre, la transcription, les notes premières, les notes secondaires, la bibliographie, donc on peut avoir 5 ou 6 colonnes. Si on a un écran plus petit, on peut avoir 2 ou 3 colonnes. Donc l'idée, c'était que l'utilisateur puisse, en fait, créer son propre environnement de travail par rapport à cette correspondance. Et donc on a fait ces premiers tests d'export des notices IMAN vers le WordPress. Et ça fonctionne, puisque donc on a effectivement ici l'image de la lettre donc, qui est à gauche avec possibilité de faire des zooms, le texte de la lettre donc, qui est transcrite, avec les notes qui apparaissent en infobulle et qui apparaissent également dans la colonne des notes ici, ici à droite. Voilà. Donc ça c'est le prototype qui a priori fonctionne. Et qui va nous permettre, en fait, dans un temps maintenant assez rapide, une fois qu'on aura relu en fait, les lettres au sérisé, eh bien de pouvoir injecter les 5000 lettres sur ce modèle. Puis ensuite, vous voyez, de modifier ce que je vous disais ici, en fait, ces notes, qui pour l'instant ne sont pas encore acquis. Voilà donc. Quelle a été notre méthodologie en fait dans l'édition de la correspondance générale de Zola, enfin, en tout cas dans la correspondance active de Zola, en partant bien sûr de l'édition finalement existante. Se pose la question de la correspondance passive, des lettres envoyées à Zola, qu'on estime à peu près à 20 000. Il y a des correspondances qui sont bien sûr connues, surtout des correspondances justement célèbres de Zola. Donc, qui ont fait l'objet d'édition soit en volume, soit dans les cahiers naturalistes. Mais il reste toutes ces lettres, finalement, d'auteurs moins connus, voire d'auteurs totalement inconnus, de personnes non identifiées. Donc, ces 20 000 lettres, qu'est-ce que nous en faisons ? Alors, là aussi, je suis allé faire un petit peu d'histoire d'archéologie, du numérique dans les études zoliennes. Et j'ai retrouvé cet article de John Walker, publié dans les cahiers naturalistes en 1987, donc il y a à peu près 30 ans, et bien il s'adresse à nous aujourd'hui. Et finalement, ça nous donne une responsabilité, en fait, dans ce que John Walker nous dit à 30 années de distance. Il nous dit ceci, « De ces 20 000 messages, il n'y en a pas un qui soit sans intérêt pour l'historien. Toutes les raisons qu'on a pu invoquer pour justifier la publication de l'intégrale des correspondances d'autres auteurs justifient également celles des lettres dont Zola fut le destinataire. Le moindre mot d'une de ces lettres peut fournir une précieuse information à un biographe ou à un historien des échanges culturels nationaux et internationaux. Symphonie héroïque que cette correspondance. Fallait-il publier en plus des 5000 lettres de Zola les 20 000 lettres reçues ? Il le fallait, nous ne le pouvions pas. Dans la suite de son article, John Walker explique qu'effectivement, il ne pouvait pas le faire à l'époque pour des moyens finalement techniques, de volume, et que aussi ces lettres avaient fait l'objet d'éditions partielles, notamment dans les notes de la correspondance générale de Zola. Mais voici ce qu'il dit à la fin de son article. L'informatique, on est en 87, nous fournit les moyens de mettre devant les chercheurs toute la correspondance de Zola, documentation capitale sur l'histoire de la culture française, européenne et occidentale, au tournant de notre siècle. Mais c'est à nous et à nos successeurs, dans le travail d'édition, de trouver le temps, les fonds, les collègues, les étudiants qu'il faut pour mener à bien cette entreprise. D'ici une dizaine d'années, nous aurons terminé la première étape, la publication des 5000 lettres que Zola écrivit. Restera un travail de bien des années encore pour achever la publication des 20 000 lettres dont il fut le destinataire. Vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes au pied du mur, en fait, dans l'édition de ces 20 000 lettres envoyées à Zola. Il nous semblait qu'il n'était effectivement pas envisageable de pouvoir publier tout de suite, et qu'il fallait finalement trouver un angle d'approche dans cette correspondance passive. Et justement, la recherche des faux nous a dirigé vers le LabEx Transfer. Et grâce au LabEx Transfer, nous avons pu élaborer un projet autour d'une partie de ces lettres envoyées à Zola, ces lettres de l'étranger. Donc finalement, on s'est dit, on va réduire dans un premier temps le corpus de ces 20 000 lettres à un corpus d'à peu près 2 000-2 500 lettres envoyées à Zola de l'étranger, notamment au moment de l'affaire Dreyfus, donc entre novembre-décembre 1998 et puis la fin 1999, le début de 1900. Ça nous permettait effectivement comme ça de réduire le corpus. Et là, Iman nous a été très utile parce que ça nous a permis de mettre très rapidement à disposition ces lettres avec les métadonnées de Blinker que je vous ai montré tout à l'heure et de pouvoir offrir ce corpus de lettres à nos collègues français et étrangers de manière à ce qu'ils puissent très rapidement prendre connaissance de ces lettres et pouvoir travailler sur ces lettres. Donc, on en est arrivé à ce Corrèze sur Iman, qui pour l'instant est privé, donc il est un instrument de travail pour l'équipe Zola et pour l'équipe Zola élargie aux collègues étrangers, qui permet d'avoir accès aux lettres de pays étrangers, classées par pays et par langue. Et à l'heure actuelle, on a à peu près une quarantaine de pays qui sont représentés. Les pays européens, Amérique du Nord, Amérique du Sud, parfois des pays beaucoup plus lointains comme l'Australie, l'Afrique du Sud, le Zanzibar, la Syrie, Singapour, etc. etc. Donc le choix a été, dans un premier temps, de numériser d'après nos archives, donc conservées au Centre Zola, donc des photocopies de ces lettres, qui étaient déjà classées par pays, ce qui nous a permis de numériser très rapidement et de mettre en ligne rapidement ces lettres. Puis ensuite, nous avons fait un travail en allant aux sources, et donc en allant dans la famille Zola, chez son arrière-petite-fille qui conserve ses lettres, de manière à pouvoir numériser ses lettres d'après les documents originaux. Et donc je vous montre un exemple. Ici on a les lettres d'Argentine en espagnol, donc là qui sont numérisées d'après les photocopies. Et donc on a la lettre avec les grandes données que nous avons mises au départ. Et l'idée est que ensuite, maintenant, ce que font nos collègues, c'est qu'ils prennent en charge ces corpus et qu'ils puissent compléter les métadonnées que nous avons mises au départ. Et que de par leurs compétences linguistiques, leurs compétences par rapport à un pays, par rapport à un auteur, ils puissent apporter leur propre expertise et enrichir en fait les notices de chacune de ces lettres. Voilà, donc actuellement, nous avons à peu près 2000 lettres qui sont en ligne. Qui vont donner l'objet d'un colloque à venir, les 23 et 24 mai, je vais un peu publicité, j'en profite, Naturalisme du monde, les voix de l'étranger, où nous avons pu inviter nos collègues étrangers qui ont travaillé pendant 2 ans sur ces corpus à venir nous en parler sous la forme de communication ou bien de table ronde, on va échanger sur ces lettres en confrontant les différentes aires géographiques de ce corpus. Le travail sur ces outils numériques, vous voyez, il est un peu parfois technique. Il faut parfois mettre effectivement la main un peu dans le cambouis du numérique et de l'encodage. Mais ça nous permet aussi de réfléchir à ces outils numériques. Pas simplement être des utilisateurs, mais aussi réfléchir à ces outils, à comment les manier et à comment essayer d'avoir des bonnes pratiques en termes d'édition numérique. Nous avons pu faire ce travail grâce au consortium Cahier, un cahier pour campus d'auteurs pour les humanités, informatisation, édition, recherche, dans lequel nous avons créé un groupe correspondance. Et ce groupe correspondance s'est réuni pendant 2 ans afin d'écrire un guide méthodologique, qui est un guide de recommandations sur l'édition numérique de correspondance. Donc je ne sais pas si pour Baudelaire vous avez plus connaissance. Donc ça n'est pas préceptes à suivre à tout prix, c'est simplement le fruit en fait de retours d'expérience nous étions une douzaine de membres dans ce groupe, avec notamment Yvan Leclerc pour Flaubert, Irène Passeron pour D'Alembert. Et puis, bien fort de nos expériences, de nos échecs, de nos erreurs, eh bien, nous avons mis tout ça en commun pour essayer effectivement de donner des recommandations quand on se lance dans l'édition numérique de correspondance. Alors, l'édition de ces lettres et de ce corpus pose aussi effectivement la question de la visualisation et de la valorisation de ce corpus. Bien évidemment, on va accéder au texte, on va accéder aux métadonnées de ces lettres, mais on peut aussi imaginer différents types d'entrées qui sont un peu nouvelles, peut-être pour nous littéraires. Imane a cette possibilité de la cartographie, donc qui peut être une entrée intéressante. Donc si je vous montre rapidement la cartographie des lettres reçues par Zola depuis l'étranger, je vais avoir à peu près 2000 points sur ma carte du monde, et je vais pouvoir aller chercher effectivement des points qui peuvent m'intéresser sur le plan géographique. Voilà, par exemple, je vais aller voir un peu ce qui se passe au Canada. Voilà. Et puis, voilà ici. Voilà. Et puis donc, je peux effectivement accéder différemment en fait à la ressource en allant chercher effectivement les points de géolocalisation de mes lettres. Et finalement, la cartographie s'avère un champ de réflexion assez intéressant, tout à fait nouveau pour moi. Je ne suis pas du tout géographe, je n'y connais rien à la cartographie, mais je me suis dit qu'on pouvait aller au-delà de la simple géolocalisation, qui est bien sûr un élément qui est important et qui est utile, mais qu'on pouvait peut-être réfléchir à d'autres choses que l'on pourrait cartographier, hein, non pas géolocaliser, mais cartographier. Et il m'a semblé qu'on pourrait, et ce sera l'objet de mon intervention dans le prochain colloque, cartographier les émotions épistolaires dans les lettres envoyées à Zola. Qu'est-ce que j'entends par émotions épistolaires ? Bien, quand on se plonge dans ce corpus, on se rend compte que chaque épistolier, finalement, va avoir un degré dans l'émotion qu'il transmet de par son écriture à Zola. Hein, quelle est sa démarche ? Pourquoi une petite fille de 12 ans australienne va écrire à Zola ? Pourquoi un avocat brésilien va écrire à Zola au moment de l'appel Dreyfus ? Et qu'à chaque fois, il y a un engagement personnel, émotionnel, hein, de l'épistolier quand il écrit à Zola. Et donc, mon idée, mon intuition, c'est qu'on pourrait, en fait, caractériser ces émotions, leur donner, finalement, comme on dit en bon français, un score, hein, entre 1 et 20. Le 1, ce serait effectivement le degré ultime de l'attaque, qui est la menace de mort, que Zola reçoit beaucoup, plutôt des lettres envoyées de France que de l'étranger. Avec la note 20 maximale, j'ai mis ici un exemple, hein, Ecce Homo, quoi. Vous êtes l'homme, vous êtes le plus grand homme de tous les temps, il y a ces formules, vrai homme que vous êtes, etc. etc. Hein, et puis entre deux, autour de 10, ces lettres que l'on trouve assez souvent, je déteste vos œuvres, hein, j'étais choqué par ce que vous avez écrit, mais j'admire votre défense du capitaine Dreyfus. Hein, voilà, donc un rejet du romancier, mais une célébration de l'homme, l'intellectuel qui s'engage pour la défense de Dreyfus. Hein, et de cette manière, en notant finalement ces 2000 lettres, on pourrait peut-être effectivement cartographier, je ne sais pas comment, enfin si je sais déjà un peu comment d'ailleurs, essayer voilà, de voir dans des zones géographiques mondiales, puis françaises, est-ce qu'il y a effectivement des zones géographiques qui vont avoir des émotions différentes, plus importantes, les unes par rapport aux autres. Hein, et là je suis en train de travailler avec donc, le Cartis, hein, qui est un outil d'édition de Sciences Po, hein, qui permet en fait, non plus, comme vous l'avez compris, hein, de géolocaliser, mais de rendre compte par la cartographie d'un élément spécifique de la correspondance reçue par Zola. Je vais dire un petit mot si j'ai encore quelques minutes. De ces cas particuliers, des lettres qu'on appelait les lettres du fond Burns, Colin Burns, qui était un chercheur anglais qui est décédé. Sa famille ne savait pas quoi faire de ces archives, donc ils ont été donnés à la Zola Society de Londres, qui n'avait plus la place de les conserver, et qui sont arrivés au centre Zola à Vittel il y a quelques années. Et on s'était pas rendu compte que dans ces archives, très disparates, il y avait des centaines de lettres originales envoyées à Zola, notamment d'Angleterre. Et donc, au début, on a mis ces lettres dans une armoire, enfin, on a appelé quand même, voilà, sans trop s'en intéresser. Puis grâce au projet Corrèze, on a mis un peu le nez dedans, et puis on s'est rendu compte que certaines de ces lettres étaient annotées par Zola. Voilà, et donc là, il y avait effectivement tout à coup encore plus intéressant, en fait, comment Zola, durant son séjour à Londres en septembre-octobre 1893, eh bien, comment il traite cette correspondance qu'il reçoit jour après jour, lui qui ne lit pas l'anglais, qui ne parle pas anglais. Et beaucoup de ses lettres sont écrites en anglais. Et donc Zola va porter des mentions sur ses lettres, du style « Je ne lis pas l'anglais, merci de me traduire ». Il demande certainement ça à son éditeur. Pardon. Voilà, donc là, on a le cas, effectivement, de cette correspondance, comment elle est reçue, finalement, par Zola. Cette correspondance à laquelle Zola ne répond pas, il n'a pas les moyens, j'irais, de répondre à ces dizaines, centaines de lettres. Il répond parfois pour certaines sollicitations bien particulières, mais pour la majorité des cas, il ne peut pas y répondre. Le numérique nous permet aussi de faire émerger des archives connues, mais qu'on n'avait pas forcément vues. On savait qu'elles existaient, mais on n'y avait pas forcément eu accès. Je pense ici aux pétitions d'hommage qui ont été envoyées à Zola au moment de l'affaire Dreyfus de plusieurs pays étrangers, notamment d'Argentine, de Suisse, de Russie. Donc ces personnes, la plupart du temps inconnues, qui se réunissent, qui vont créer une société Zola, Justice Zola par exemple en Argentine, et qui vont signer par centaines, voire par milliers, des registres de soutien à Zola. Ici on a ce registre d'Amérique du Sud, Zola, où chacun va donner 5 centimes à Zola pour venir l'aider dans les frais de justice auxquels Zola est confronté. Donc effectivement, le numérique nous permet aussi d'aller chercher ces archives qui sont dans la famille. Et puis parfois, c'était une découverte qu'on a faite finalement il y a 2 ans, de documents qu'on ne connaissait pas à ma connaissance, comme ce registre qui en fait s'avère être un registre de condoléances placé chez Zola au moment de sa mort, rue de Bruxelles. Effectivement, quand on relit certains témoignages de l'époque, on apprend effectivement qu'on avait mis un peu à l'hâte, puisque Zola est mort brutalement, brusquement, on avait mis à l'hâte des registres de condoléances, et puis les Parisiens, la plupart du temps aussi, inconnus, des artisans, des instituteurs, des commerçantes, eh bien, font la queue pour venir signer ce registre de condoléances. Et parfois, on trouve quelqu'un d'un peu plus connu, comme ici, Claude Monet, signe Paul Monet, artiste. Voilà, donc le numérique aussi finalement nous permet, voilà, quand on est dans cette démarche finalement d'aller numériser de l'archive qu'on avait identifié au départ, et bien aussi de pouvoir tomber sur certaines pépites qu'on va pouvoir apporter, numériser, pas forcément faire grand chose au départ, mais en espérant que tel ou tel chercheur va pouvoir s'intéresser à ce type de documents. Je vais rapidement terminer mon intervention, puisque je fais partie de l'archéologie numérique de Zola, vers les projets futurs, en cours ou futurs, en expliquant aussi la difficulté qu'il y a à mener différents projets numériques de front, parce qu'on est aussi un peu dans la course aux projets numériques, parce qu'aussi on a des financements auxquels on répond, qui sont souvent des financements de courte durée, et donc on n'a pas forcément toujours le temps de terminer un projet qu'un autre arrive. Et on a cette difficulté aussi en termes de gestion de notre temps de travail. Mais je travaille actuellement avec Gabriel Millisson-Hirschwald, qui est spécialiste des interviews, et notamment celle d'Alphonse Daudet, donc à une édition numérique des interviews de Zola, qui est réputé être l'homme le plus interviewé de son temps. Et on estime qu'il y a à peu près 900 interviews de Zola dans la presse française et internationale. Plusieurs dizaines ont déjà été publiées intégralement, notamment par Dorothy Spears en volume, mais beaucoup sont encore des textes qui sont inédits. Et donc nous sommes en train de dépouiller tous les journaux de l'époque et de reprendre ces textes, et nous en faisons une transcription sur Ortolang, que vous devez connaître, et avec un encodage TEI, Text Encoding Initiative, que nous avons commencé à faire sur le logiciel dédié à cela, qui est Oxygène. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, à deux, prendre en charge ces 900 textes possibles, eh bien, c'est une entreprise considérable, notamment l'encodage TU, hein, qui demande beaucoup de temps. Et là, eh bien, je suis allé voir quand même vers d'autres outils qui sont actuellement disponibles, et notamment vers les outils de transcription collaborative. Et je suis allé voir du côté de nos collègues de Grenoble et du projet TACT, hein, qui est leur plateforme de transcription et d'annotation de corpus textuel. Et donc, ce projet TACT, accueille différents projets de transcription collaborative, et notamment, je prends par exemple les conférences de Benoît Couff. Donc ici, ils ont fait le choix d'ouvrir à tout public. Donc toute personne qui souhaite transcrire une page ou plusieurs pages d'un manuscrit de Bonnelou peut venir faire sa transcription. Bien sûr, après, il y a tout un processus, hein, de relecture et de validation scientifique. Et eh bien, cet outil semble vraiment séduisant, notamment la transcription, ce n'est pas forcément le plus difficile à faire. Moi, les études de Zola, comme ce sont des textes imprimés, la transcription ne pose pas d'énormes problèmes. Mais la difficulté, c'est l'encodage de TU, hein, qui prend énormément de temps, et qui ne peut être fait quasiment que par une personne qui connaît le balisage TU. Hein. L'idée ici du projet TACT, c'est que toute personne peut faire la transcription et faire l'encodage, même si elle ne connaît pas la TU, parce que toutes les balises TU ont été prédéfinies au départ par le projet de transcription. Et que effectivement chaque balise en fait fait l'objet d'un petit descriptif, et il est très simple en fait, sans passer par le code source, par le code XML TU, en fait, de pouvoir placer ces balises. Et donc de cette manière, on pourrait imaginer que pour ces interviews de Zola, on puisse facilement encoder au minimum, c'est-à-dire les noms propres, les dates, les lieux, et pouvoir y placer des notes scientifiques. La transcription collaborative, c'est aussi, je pense, en termes de gestion de projet, de gestion d'équipe, un stratagème quelque part aussi pour finalement mobiliser un travail d'équipe. Hein, plutôt que de proposer simplement à l'équipe de relire des transcriptions faites par d'autres personnes, il est quand même plus agréable pour un chercheur, pour un étudiant, pour un chercheur à la retraite, de faire sa propre transcription plutôt que de relire la transcription des autres. Donc là, je pense aussi qu'en termes de choix des outils numériques, il y a aussi un choix en termes de stratégie d'équipe, hein, auquel il faut réfléchir. Enfin, je vous présente le projet qui vient d'être accepté par Translitterae, PSL. Alors encore une fois, hein, les acronymes, là je me rends compte en vous parlant, c'est le projet SENA, alors, en disant que c'est un projet qui n'ira pas dans le mur, c'est que c'est un projet sur 2 ans qui vise en fait à étudier les scènes et les scénarios naturalistes en croisant différents regards littéraires, théâtre, musique, cinéma et photographie. Donc ici, dans un premier temps, on souhaite en revenir à la génétique, à ce qui nous occupe à le thème, en proposant une édition numérique des 20 ébauches des dossiers préparatoires d'Herbon-Macquart. Nous n'avons pas encore fait les choix techniques. Est-ce que nous passerons par une transcription et un encodage collaboratif comme le propose TACT? Est-ce que nous passerons par Transcribus, qui est un consortium qui permet, via un paramétrage très fin, de pouvoir faire de la transcription automatique d'une écriture manuscrite? Donc là, il y a encore des stratégies effectivement à réfléchir, mais effectivement ce projet souhaite donner en fait une édition de cet aspect très précis des dossiers préparatoires que sont les ébauches des Rougon-Macquart. Un autre aspect du projet sera de travailler sur l'antinaturalisme, notamment de Léon Blois avec Jean-Baptiste Amadieu, et également de travailler sur le scénarique et sur les questions d'adaptation des romans de Zola au cinéma ou à l'opéra. Et un second aspect non négligeable du projet concerne tout ce qui est la scénarisation par la photographie chez Zola. Là, c'est un projet qui est essentiel pour nous, puisque le ministère de la Culture a récemment acquis les 2000 plaques de verre réalisées par Zola en photographies à la fin de sa vie. 1500 ont déjà été mises en ligne sur le site du ministère de la Culture et 500 plaques de verre sont en cours de restauration. Et donc là, il y a aussi un champ de recherche qui est tout à fait neuf, parce que si on a déjà pas mal travaillé sur la photographie chez Zola, on n'a jamais pu travailler d'après les plaques de verre, hein, mais toujours d'après des tirages ou des reproductions. Et le travail sur les plaques de verre, on est déjà allé voir ces plaques de verre très précisément, nous permet, dans le cadre d'une genèse photographique, hein, de voir des processus de création et de travail de ces plaques de verre par Zola, hein, qui les fait lui-même, qui les réalise lui-même, et qui va jusqu'à les modifier. Hein, il fait un peu du Photoshop sans Photoshop, hein, c'est qu'il va pouvoir, en fait, à l'aide de différents produits, éclaircir une chevelure, enlever des rides sur un visage. Hein, donc là, grâce aux plaques de verre, on peut voir en fait vraiment le travail photographique de ce Zola photographe. En conclusion, je dirais que, voilà, vous l'avez vu, ces projets d'édition numérique autour de Zola nous amènent à d'abord réfléchir sur ce que c'est que faire une édition numérique. Là, je vous montre rapidement un schéma éditorial que nous sommes en train d'élaborer dans le cadre du projet IMAN. Nous avons créé un conseil scientifique IMAN qui fait que nous arrivons finalement à pouvoir offrir au projet numérique eh bien, une chaîne éditoriale, hein, avec les différentes étapes auxquelles nous devons ou pas passer pour avoir, depuis la définition du projet initial jusqu'à la valorisation du contenu publié, eh bien, toute une chaîne d'étapes auxquelles les projets sont confrontés. Donc notre réflexion, hein, elle se porte aussi, hein, sur les outils numériques et ces questions effectivement, de bonnes pratiques à adopter. Et enfin, si j'en reviens rapidement à Zola et à notre approche de l'œuvre de Zola, je pense qu'entre le projet Archise 2011 et nos projets d'aujourd'hui en 2018-2019, eh bien, nous avons un peu fait une révolution copernicienne, me semble-t-il, dans notre approche de l'archive zolienne numérisée. C'est que le projet Archise, c'était un projet très centralisé, centralisateur, avec Zola au centre, et puis un renvoi vers l'iconographie, les textes, les manuscrits, aux sources pédagogiques, bibliographie. C'était finalement l'essence même du projet Archise, et que depuis, dans l'avancement de nos réflexions par rapport à ces questions-là, dans la multiplicité aussi des projets numériques qui se font heureusement en dehors de l'équipe Zola et en dehors de l'ITEM, eh bien, c'est vers ce schéma-là que nous allons. Hein. Vous voyez que les archives d'Émile Zola ne sont qu'une toute petite partie, en fait, du réseau, du naturalisme monde auquel on pourrait imaginer, mais que ces archives, eh bien, elles sont mises en relation avec d'autres corpus, des corpus développés par nous, mais aussi des corpus développés par d'autres équipes, la plateforme générale de Flaubert, probablement la plateforme générale de Baudelaire, des manuscrits de Flaubert à Rouen et à Lyon, des textes critiques réalistes et naturalistes édités par les collègues en Espagne et au Portugal, le naturalisme dans la presse brésilienne du 19e siècle édité par nos collègues brésiliens à Rio, et également ici les interviews de Zola et de Daudet, pourquoi pas Maupassant, Goncourt, d'autres petits naturalistes. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne voit plus simplement Zola comme un point central, mais comme un point parmi une nuée en fait, de ressources numériques autour de la littérature naturalisme en France et à l'étranger. Voilà, je vais m'arrêter sur cet aspect-là. Merci beaucoup.
Merci.